est-ce que vous avez commencé à dessiner?
Ah, depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Ça c'est un truc, c'est la réponse très basique, mais dans mon cas, elle est très vraie. J'ai pas de souvenir du premier dessin, parce que je crois que j'ai ma mère, tout le monde me le dit, j'ai toujours dessiné.
Et l'envie d'en faire votre métier, c'est
venu... Alors en fait, l'envie était là très tôt. Imaginer que c'était possible. En fait, au tout départ, je voulais faire des films d'animation. Je voyais les films de Disney, ça, je voulais faire ça. Mais en même temps, j'avais même pas imaginé que c'était des humains qui faisaient, tu vois, des trucs. Je croyais que c'était comme dans Roger Rabbit, là, qu'il y avait des toons, tu vois. Et donc, je me suis... Ma mère, en plus, évidemment, qui elle était psy au ministère de la Justice, qui était donc fonctionnaire. Mon père aussi, il voulait que je fasse un métier sûr et tout. Alors ma mère était là, non, mais tu pourrais faire... Parce qu'en plus, j'étais pas mauvais à l'école. Etc. Tu pourrais faire juge, expert en art, blabla et tout. Donc, elle essayait comme ça de me mettre... à faire autre chose. Et quand j'ai suis rendu compte, parce que les profs de dessin ils disaient, ah non, faut absolument que tu refasses ton métier, tout, c'est pas possible, et tout, et qu'ils poussaient à fond, j'ai vu que je pouvais en faire mon métier. Et très rapidement j'ai réussi à travailler, parce que j'ai commencé à travailler dans le dessin, j'avais 15 ans, et j'ai travaillé dans l'animation. J'ai fait d'abord des stages, parce que j'avais pas le droit d'être employé. Après j'ai travaillé carrément dans l'animation, fait de la publicité, et très vite en fait chez Soleil. Puisque j'avais quoi, 18 ans quand j'ai rencontré Mourad et les gens de Soleil, ils voulaient m'éditer, il y avait les Humano aussi. Et finalement, j'ai fait mon premier album à 19 ans. Voilà.
Et justement, il a été primé tout de suite aux États-Unis.
Non, c'est pas celui-là. Non, c'était une BD. D'accord. Et ma foi, elle n'a pas été primée, c'est bien normal.
D'accord.
Donc, ça n'était pas top. Mais non, en revanche, mon premier livre jeunesse, qui était Cerise Griotte, qui était mon diplôme de fin d'études des arts déco, celui-là a été primé. Mais c'était un peu après, j'avais quoi? J'avais 23 ou 24 ans, je sais plus, dans ces eaux-là.
Et du coup, ça...
Ah bah c'était...
Comment non, vous avez
c'était...
Réagi à la...
Ah non, mais c'est... en fait, c'était dingue parce que je me rendais pas compte... Enfin, et je m'en suis rendu compte après, en fait, avec les livres d'ensuite, qui n'ont pas tous reçu le même accueil. Il y en a qui ont reçu des plus gros accueils après, mais il y en a aussi que entre deux, juste après, en fait, fallait bien manger. Donc j'avais fait deux livres un peu de commande, qui n'étaient pas très bien, et qui n'ont pas reçu le même accueil. Et je me suis rendu compte que la coédition à l'international, c'était pas un truc qui se passait à tous les coups, que le fait d'avoir des prix et tout, non. D'ailleurs, j'ai eu des prix à l'étranger pas mal, j'en ai eu quelques-uns. En France, j'ai eu mon premier maintenant, cette année avec le livre numérique, sinon j'en avais jamais eu. J'ai toujours été, j'ai été nommé, machin, et puis ils ne m'ont jamais donné de prix. Donc je me suis rendu compte à quel point c'était précieux, quoi, en fait, à quel point c'était pas un début de carrière standard.
Et tout à l'heure, vous évoquiez votre envie de faire de l'animation. Je crois que vous en avez fait un peu pour le livre numérique.
J'en ai fait. Voilà, pour le livre numérique, j'ai fait de l'animation, j'ai retouché, parce que j'avais fait de l'animation pendant les arts déco, et je me suis rendu compte que, et pendant les stages, et que j'ai travaillé en animation, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, je voulais pas faire l'animation telle qu'on me le proposait à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on démarre dans l'animation, on travaille jamais sur son univers, sur son dessin. On travaille toujours sur l'univers de quelqu'un d'autre. En animateur, alors là on bûche comme ça, on gratte à faire plein de dessins, et je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais raconter mes histoires, et c'est comme ça que j'ai fait de la BD, c'est comme ça qu'après j'ai fait mes livres illustrés, où je faisais mes textes, ou alors j'illustrais des textes comme là pour Notre-Dame de Paris, d'auteurs que j'aimais beaucoup et qui restaient complètement dans mon univers. Et donc là, pour le livre numérique, La Dernière des Fées, moi c'est bon.
Moi je pourrais venir.
Allez. Donc, pour le livre numérique, là, l'herbier des fées, là j'ai pu refaire de l'animation. Ah, putain, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, donc j'étais un peu rouillé. Mais là c'était mon univers, c'était mon dessin, et c'était, donc c'était super. Et j'ai d'autres projets aussi en animation. Mais l'animation c'est très long. Voilà.
Vous parliez tout à l'heure de votre univers, mais vous partagez un certain nombre d'albums avec Sébastien Pérez.
Ouais.
Comment s'est passée votre rencontre?
Sébastien n'écrivait pas au départ. On était amis, mais j'ai commencé à lire. Enfin, il me racontait. C'est quelqu'un qui avait vraiment un imaginaire très fort et très très proche du mien. On a vraiment quelque chose d'extrême, une grosse connexion. Donc je vais proposer d'écrire en collaboration notre premier texte. C'était La funeste nuit d'Ernest. Donc on l'a écrit à deux. Et c'est un des seuls auteurs avec qui on écrit ensemble. On écrit vraiment à quatre mains. Il n'y a pas quelqu'un qui prend le dessus. De temps en temps, c'est son idée, de temps en temps, c'est mon idée. Mais à la fin, ça se mélange complètement. Et ça se mélange vachement. Enfin, on n'arrive pas à discerner. Et dans des projets très lourds comme Généalogie d'une sorcière ou comme L'herbier des fées, où il y a énormément de volumes de texte, beaucoup de travail de recherche historique, etc. C'est très précieux d'avoir un allié, parce qu'en fait, quand on fait un livre, on est souvent très seul. C'est un métier très très solitaire, et parfois, quand ce sont des projets vraiment énormes, on peut baisser les bras. Donc c'est bien pratique d'avoir, et surtout quelqu'un avec qui je m'entends si bien et avec qui il y a une correspondance d'univers tout à fait visible, palpable. Il n'y a aucun problème là-dessus, parce qu'on m'envoie beaucoup de textes, et c'est très rare qu'il y ait un texte qu'on m'envoie que j'ai envie d'illustrer. Souvent il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui ne me plaît pas, et moi quand je ne suis pas complètement transporté par le texte, quand je ne suis pas tout à fait je suis nul. Je l'ai fait une fois là pour un livre aux États-Unis. J'ai détesté et j'étais très lent, alors que c'est pas du tout mon meilleur livre, et voilà. Donc on peut pas, voilà, je suis pas fait pour la commande.
Et quand vous signez texte et dessin, vous travaillez dans quel ordre ?
Toujours texte d'abord. Jamais dans le. Je suis un illustrateur, donc j'illustre, je mets en lumière des parties du texte. Je comprends pas comment font les autres qui font des images et qui après font les textes. Je suis admiratif parce que je. Voilà, pour moi les deux sont très liés, et on peut pas. Si on n'a pas le texte, je vois pas comment on l'illustre en fait. C'est. Voilà.
Et quand vous travaillez tout seul sur un projet, enfin, vous évoquiez tout à l'heure plus de solitude, mais est-ce que vous n'avez pas aussi en même temps plus de liberté ?
Non, parce que vraiment quand je travaille, vraiment je suis très libre. Toujours les projets, c'est moi qui les propose, je choisis tout, le format, le papier. Comme je vous dis, j'ai eu la chance que Cerise Griotte, là, le premier livre, fonctionne très bien. Et ça m'a donné la liberté en fait, sur les projets d'après, qu'on me fasse confiance et qu'on me laisse choisir les choses. Et ça, c'est une vraie chance. Et du coup je m'en sers puisque je le fais, je fais vraiment les bouquins, donc jamais je me sens prisonnier vraiment, à part quand j'ai travaillé, je vous dis, pour un bouquin aux États-Unis là, où là ils sont très directifs comme ça, et encore ils m'ont demandé aucune retouche, rien du tout, mais quand même il fallait que je leur montre tous mes crayonnés, tous mes machins, c'est des processus dont je n'ai pas l'habitude. Donc voilà, mais sinon je me sens absolument pas prisonnier de quoi que ce soit. De toutes les façons, je vous dis, si jamais c'était le cas, j'arrêterais, je le ferais pas, parce que je suis pas bon. Je n'y arrive pas.
Et vous parliez à l'instant de la technique, donc vous faites tout d'abord au crayon.
Alors je fais d'abord des crayonnés, bien sûr, et après je les reprends et je peins dessus. Alors en général, soit ça peut être de l'encre, de l'aquarelle, parfois ça peut rester au crayon. Majoritairement c'est de la gouache et de l'huile sur papier.
Albums qui ont un cadre à l'Asie, parce que c'est une culture,
une civilisation. Ah, j'adore, oui, tout à fait, en particulier le Japon. J'ai toujours été, je pense que je fais partie de la génération qui a été élevée au manga, au Club Dorothée, tout ça. Donc l'Asie, c'était presque notre double culture, faut être honnête. Mon frère a habité longtemps au Japon, il était directeur du centre culturel de Tokyo, donc j'y suis allé plusieurs fois, et j'adore, voilà. En même temps c'est attraction-répulsion, c'est-à-dire que à la fois j'aime cette culture, la sensibilité, l'extrême délicatesse, en même temps leur positionnement politique parfois pendant la guerre, etc. C'est pas vraiment ma tasse de thé, étant petit-fils des déportés, etc. Je peux pas, voilà, c'est un peu les nazis de l'Asie, donc j'ai pas non plus une admiration sans borne, elle est aussi bien calmée par leur penchant qu'ils ont pu avoir à certaines parties de l'histoire. Mais voilà, c'est vrai qu'en revanche, même au niveau de l'art, au niveau des estampes, au niveau du travail de la ligne, du travail sur le plein, le vide, les rythmes, c'est magnifique. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'à partir du 19e siècle, quand on a vraiment en Europe découvert ça, ça a passé son temps d'influencer tous les peintres, tous les trucs, je veux dire, c'est magnifique.
Et justement, esthétiquement, c'est l'influence que vous revendiquez le plus.
Ah oui, non, pas, je sais pas que je revendique le plus. Je suis quand même, moi, l'influence, entre guillemets, que je revendiquerais le plus, c'est vraiment la vie, déjà. les gens autour de moi, tous les visages que je dessine sont inspirés de gens autour de moi. C'est aussi la photo, j'adore la photo, j'en ai pratiqué pas mal aux Arts Déco et c'est une discipline que j'adore et donc je me sers beaucoup de la photo sur les flous de premier plan, le travail du flou aussi, de la rapidité, les fisheyes, tout ça. Et j'aime beaucoup aussi toute la période du Quattrocento italien ou alors les primitifs flamands. Les primitifs flamands, c'est vraiment une période de l'art que j'adore. Mais les estampes japonaises et l'art japonais aussi, parfois la tradition du théâtre, des poupées, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Les costumes, le maquillage aussi qui était hallucinant avec ses teints très blafards, les bouches très petites, très marquées. C'est quelque chose qui m'influence, bien sûr. Je peux vous parler de Notre-Dame de Paris.
Par exemple.
Notre-Dame de Paris, ce qui était très... parce que j'avais illustré les contes macabres pour Soleil. Et les contes macabres, c'était vraiment un projet que j'avais depuis que j'ai 11 ans. Donc ça date pas d'hier, que j'avais envie de faire. C'est un des premiers projets que j'avais présenté. Et quand j'ai fait Cerise Grillage, j'avais déjà présenté. Et le Seuil voulait le faire. Je l'avais présenté aussi à Sarbacane, qui était un éditeur qui était dans mon jury de fin d'études. Et ils étaient tous OK pour le faire. Puis finalement... j'en ai parlé comme ça avec Barbara et Clotilde, et elles m'ont dit « Ah non, faut qu'on le fasse ensemble !» Et comme je connaissais Barbara et Clotilde depuis très très longtemps, puisque je la connaissais depuis que j'avais 19 ans, je dis « Ouais, on va le faire !» Puis c'était beau de faire avec mon premier éditeur ce livre-là qui vraiment me tenait à cœur. Et donc je l'ai illustré, c'était des images, ça coulait de source, c'était un énorme travail. C'était la première fois que je faisais un travail de plus de 300 pages, donc c'était beaucoup, y compris la maquette, tout. En plus, c'était quelque chose qui ne se faisait plus depuis 200 ans peut-être, les illustrer pour adultes. Donc c'était vraiment très audacieux de la part de Soleil de faire ce livre-là, parce qu'il n'y avait pas de marché. Concrètement, c'est tout bête, mais où est-ce qu'on le place en librairie ? Voilà, ce livre-là, c'est pas un livre jeunesse, donc on ne le place pas avec les autres illustrés. C'est pas une bande dessinée parce qu'il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de fil lecteur, il n'y a pas de case. Et en même temps, si tu le places en adulte pur avec les romans, les gens ne vont pas comprendre non plus parce qu'il y a des dessins. Donc les dessins, c'est pour les bébés. Donc voilà, donc c'était un vrai parti, une vraie gageure. Et le bouquin a super bien marché. Donc c'était génial parce qu'en plus c'était un bouquin qui comptait beaucoup pour moi et on a pu le faire. Ensuite on a fait pour les images, ça a coulé de source, c'est-à-dire c'était énorme travail, mais je les avais en moi depuis tellement longtemps que voilà, je me suis pas inquiété, même s'il y avait eu beaucoup d'illustrateurs qui ont illustré les histoires extraordinaires de Poe, même s'il y en a certains que j'adorais comme Clark, comme Rackham, etc. Voilà, c'est pas facile de passer derrière, mais en même temps, j'avais une vision tellement précise du sujet que je m'en foutais. Je l'ai fait quand même avec toutes mes tripes, tout mon cœur, et voilà. Et donc, Notre-Dame, c'était très différent. C'est-à-dire que là, les contes macabres, c'était une vision très personnelle, très très immédiate, très voilà, presque. Ça faisait partie vraiment de moi, quoi. C'était et Notre-Dame, j'ai voulu au contraire. J'ai voulu au contraire mettre des images parce que, au contraire de Poe, Notre-Dame a été très peu illustrée. La raison, je pense l'avoir découverte, c'est que ça fait 670 pages. Et donc, pour faire un illustré, ça pose beaucoup de problèmes parce que non, on a dû le scinder en deux comme les premières éditions Notre-Dame, parce que sinon le livre faisait 4,5 kg. Donc c'est pas très pratique pour le lire, parce que quand on fait un illustré, on est obligé d'utiliser un certain papier, on ne peut pas utiliser le papier des poches, on est obligé de faire un carton, voilà, parce que c'est une édition un peu plus chic. En plus nous on voulait faire vraiment des éditions luxe, un peu comme le début du 20e siècle et tout, les derniers illustrés pour adultes. Et donc on a je voulais mettre un peu les images un peu iconique. Voilà, je voulais créer des images iconiques. Je voulais créer la Esmeralda, le Quasimodo, vraiment être dans quelque chose de... et puis parler, recréer le Paris de l'époque, le Paris du Moyen-Âge, tous ces monuments qui n'ont plus existé depuis, tout ça. J'avais vachement envie de faire ça. Donc c'était vraiment une façon très très différente d'illustrer. C'était une des premières fois que j'illustrais comme ça, où j'illustrais vraiment en essayant de faire une... Tout comme le livre était un roman populaire, c'était vraiment le roman populaire par excellence, du romantisme et tout. Je voulais faire des images dans cet même esprit.
Et pour recréer le Paris de l'époque ?
Le Paris de l'époque et les personnages. Enfin, moi, j'ai vraiment essayé de le faire les images qui me venaient à l'esprit tout de suite, sans essayer d'être le plus original du monde. J'allais pas faire une Esmeralda blonde ou machin. J'ai fait la Esmeralda brune, basanée, un peu sexy, un peu libre, avec des cheveux au vent, presque des dreads et tout. Enfin voilà, c'est ça quand je voyais. Pour moi, Esmeralda était comme ça, avec la robe rouge, avec le machin flamboyante. Le Quasimodo, tout le monde a oublié que c'était un rouquin. Alors moi, j'ai fait bien roux, avec des taches de rousseur. Je l'ai fait. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé. Frollo, il est terrifiant, il a une tête d'oiseau. C'était coup de vautour avec son nez comme ça et tout, avec son grand front qui dont parle Hugo. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie et j'espère y être arrivé.
Et vous avez travaillé à partir de gravures, de choses comme ça?
Ben non, justement, le but quand tu es illustrateur et quand tu fais un truc, c'est justement d'oublier tout ce qui s'est fait avant. Et de surtout pas reproduire ça. Déjà, la chance que j'avais, c'est que de par ma technique de couleur à l'époque, où Notre-Dame est paru, il n'y avait pas de technique couleur, donc il n'y avait pas d'illustration couleur, donc c'était des trucs en gravure avec beaucoup de traits, de hachures, vraiment le style début 20e et tout, donc qui s'écarte énormément de ce que je fais, donc de fait, ça n'allait pas ressembler, et structurellement, la façon de construire l'image n'allait pas être de la même façon. Déjà, ils ne pouvaient pas faire d'image en double page, ils pouvaient pas faire... Enfin, voilà, il y avait énormément de choses qui font que de toutes les façons, ça n'allait pas ressembler aux rares éditions illustrées de Notre-Dame. Mais, malgré tout, quoi qu'il arrive, à chaque fois que j'illustre un truc que j'avais illustré... Plus fort, je crois encore. Donc, il y avait Blanche-Neige, pareil, qui a été moult fois illustrée. Et le truc, c'est qu'on pouvait, faire j'aurais pu m'inspirer de toutes les Blanche-Neige d'avant, mais c'était pas le but, quoi. L'idée, c'était de faire un truc nouveau, quoi.
Et il y a encore beaucoup de textes comme ça que vous souhaiteriez illustrer?
Il y en a d'autres. Puis là, ce qui va être drôle, c'est l'étape d'après. Chez Soleil, là, je fais deux livres qui seront des livres illustrés pour adultes, mais qui seront des textes, justement, qui ne seront pas des grands classiques, mais qui seront des textes écrits pour. Alors là, c'est l'étape ultime, parce que là, je me mets à faire de l'illustré pour adultes, mais avec un texte écrit pour les adultes, qui n'est pas un roman, qui n'est pas une adaptation, qui n'est pas machin, mais qui est de la création pure. Alors, c'est un gros enjeu, on va voir comment ça donne. Les deux bouquins paraîtront normalement l'année prochaine, en 2012. Donc on verra, quoi. J'ai vraiment hâte, il y a un bouquin autour de Marie-Antoinette, mais un bouquin très très spécial au niveau de sa structure, un truc que j'ai pas vu un truc pareil jusqu'à maintenant, donc on verra. Et un autre bouquin un peu secret dans la collection d'Octambule qui sera de la BD, mais pas tout à fait, qui sera de la graphic novel. Et voilà, et ce sera des bouquins qui sont coédités avec des grands musées, donc voilà, on va essayer de faire un truc bien.
Donc, en parlant de grands musées, y a pas mal d'expositions qui tournent
oui.
De votre œuvre.
Ouais. Bah, c'est un travail intéressant, et puis c'est une façon complètement différente, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je faisais pas mal d'expositions qui étaient liées aux livres, donc voilà, on présentait. Alors, c'est toujours étonnant de présenter les originaux, parce qu'en fait, les originaux, c'est autre chose, quoi. Un livre, c'est un tout. C'est un papier, c'est un format, voilà. Et une illustration, c'est une œuvre en elle-même. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de vivre forcément avec le reste. Donc, quand on le présente, quand les gens le voient, c'est assez étonnant et c'est marrant de retravailler ça. Et là, je suis allé plus loin, parce que j'ai mon exposition, là, en décembre, qui démarre le 13 décembre, qui s'appelle Mémorise, où là, j'ai carrément essayé, j'ai fait une vingtaine d'œuvres exprès pour l'expo, avec aussi des sculptures, des volumes, une scénographie. Et là, ce sont des pièces qui ont été faites pour l'expo, donc qui ne sont pas dans des livres. Et qui sont, en revanche, j'ai essayé de... Elle s'appelle Mémorise l'expo parce qu'en fait, elle est constituée d'images qui m'ont formé, enfin d'images un peu structurelles, des images que j'avais en tête, des choses qu'on m'a racontées, des choses que j'ai vécues étant enfant, un peu des traumas, quoi. Ou des chocs graphiques ou des choses comme ça, qui quelque part, ensuite, malgré moi, en fait, se sont répandues dans tout mon travail d'illustrateur depuis voilà, 8 ou 9 ans. Et là, quelque part, c'est comme si je faisais les images matrices. C'est-à-dire, je fais vraiment ces images-là, vraiment. Et je peux les pousser très très loin parce que j'ai eu le temps de les faire, parce que c'est vraiment une expo et qu'il y avait voilà que 20 images, j'avais pas la mise en page, j'avais pas tout ça, j'ai pu me concentrer. Donc c'est vraiment des pièces qui sont faites pour être exposées, pour être vues comme ça, ce format-là, présentées comme ça. J'ai même chiné des cadres, j'ai trouvé les cadres avant, j'ai fait les pièces en fonction, j'ai machin. Enfin, c'est un tout. C'est la première fois où vraiment je peux pousser le truc, voilà, comme ça.
Est-ce que cette recherche sur la scénographie, ça vous a donné envie de participer à des aventures théâtrales ou...
J'ai eu des trucs déjà, j'ai déjà eu des adaptations comme ça, où j'ai un petit peu participé. La scéno, j'en ai fait un petit peu aussi aux Arts Déco. C'est un métier quand même à part. Hein. J'ai aussi scénographié 2-3 expos. Il y en avait une à la Cité du Livre, justement, avec son Provence, où on a fait une super scéno, vachement chouette, avec une scénographe. C'est un truc qui m'intéresse. Pour moi, tout comme le livre est un tout, une expo, c'est un tout. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion, on n'a pas l'occasion de le faire tout le temps, pour des questions de moyens, pour des questions de temps, pour des questions de tout ça. Et là, je suis vraiment content d'avoir pu pousser le truc jusqu'au bout. Et déjà, ça me suit. Après, le théâtre, bien sûr, ça m'intéresserait. Moi, j'aime tout ce qui se lie à l'image, ce qui se lie à la façon de raconter une histoire, que ce soit le ciné, le théâtre, tout ça. C'est tout ça, c'est des aventures. Et bien sûr, je serais ravi de le faire, et puis on verra où ça nous conduira. Tout ça. Peut-être parler de l'herbier, on n'a même pas parlé de l'herbier.
Effectivement.
Oui, mais donc parallèlement à Notre-Dame sort aussi un livre et qui est un peu l'actualité, c'est L'herbier des fées que je fais chez Albin et qui a été décliné en 2 supports. Alors c'est amusant parce que tout le monde me demande de parler beaucoup de ça, du livre numérique. Ça fait peur à tout le monde, ça a bouffé le livre. Et justement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment un thème qui revient dans Notre-Dame où lui s'inquiétait que l'imprimerie détruisent l'architecture et que, comme l'architecture c'était le moyen de laisser dans le temps aux hommes de marquer leur passage dans le temps, et il disait avec le livre c'est terminé, on ne fait plus de grandes cathédrales, on ne fait plus grand mouvement. Bon, l'architecture est toujours là. C'est vrai que l'architecture comme message du temps a un petit peu disparu. En même temps, je pense que faire des cathédrales... Quoique, oui et non, il y a la pyramide du Louvre, il y a la bibliothèque François Mitterrand, il y a quand même toujours, il y a les tours, les World Trade Center, tout ça, si ça, c'est pas une façon de marquer son temps, on ne sait pas. Hein. Mais voilà, les choses peuvent coexister, et pour moi, le livre numérique aussi. Et donc là, L'herbier des fées, c'est vraiment l'histoire d'un chercheur, comme ça, on sait, parce que moi, la féerie, c'est pas nécessairement quelque chose qui était ma tasse de thé, c'était un truc qu'aimait beaucoup, justement, Sébastien, et ça je le savais depuis toujours, et je me suis dit, eh ben, ce serait bien de faire un livre de fées que je pourrais aimer, vu que moi j'aime pas ça, et donc j'ai mis dedans tout plein de choses que j'aimais, c'est-à-dire la recherche scientifique. C'était une période, le tout début 20e, où le scientifique et en même temps la croyance se mélangeaient beaucoup, parce que on connaissait très peu de choses, il y avait très peu de choses qui étaient arrêtées, on découvrait encore énormément de choses, donc on avait quand on voit les cabinets de curiosité ou les planches anatomiques, il y a des faussetés pas possibles, des chimères qui sont présentées, des dragons ou des choses comme ça, comme si c'était de la réalité. Donc je trouvais que c'était un point de départ très bon pour inscrire un bouquin de féerie. Et donc c'est pour ça que je suis parti de là. Et donc je me suis dit, et puis j'adorais la Russie, Rasputin, il y avait un côté très mystique à tout ça. Donc là, c'est un chercheur qui est envoyé par le cabinet de sciences occultes de Rasputin, qui a vraiment existé, un cabinet de sciences occultes. Et donc il l'a envoyé en forêt de Brocéliande pour découvrir un élixir d'immortalité. Ça, c'était vraiment l'obsession de Rasputin. Et il y va et il découvre tout un petit monde. Et j'ai voulu justement que ce monde-là, il pas m'inspirer de tout ce qui a été fait avant, les nains, les farfadets, les elfes, ça m'intéressait pas du tout. Donc je suis parti vraiment des plantes. Et c'est pour ça qu'après je me suis dit, on va faire un herbier, on va faire que le scientifique est un herbologue. Donc il part des plantes et il va comme ça découvrir des êtres. Alors au départ, il va agir comme un scientifique, c'est-à-dire il va les ausculter, il va les disséquer, il va les analyser. Et après, il va essayer de communiquer avec, essayer de et les admirer plus. Et donc l'histoire bascule, il y a tout un côté épistolaire, puisqu'il en oublie, il se... Et ça, c'est quelque chose de très proche que j'ai senti, c'est-à-dire il se perd complètement dans sa passion. Et moi, c'est pareil, quand je fais des bouquins, des fois pendant 6 mois, je peux être projeté dans le truc et complètement oublier tout le monde, ma famille, mes amis, mes machins et tout. Et lui, c'est ça en fait, il se perd complètement dans ce truc-là. Rêve, réalité, est-ce que c'est vrai, pas vrai, est-ce qu'il a vu les faits, pas, oui, non, bon, chacun décidera, la fin est assez ouverte. Mais voilà, et donc, comme il découvrait un nouveau monde, comme il découvrait des nouveaux trucs, le livre papier, j'ai voulu vachement le travailler avec des calques, des découpes laser qui sont des techniques un peu nouvelles, un papier particulier, etc. Et je me suis dit, ce serait encore plus génial d'aller faire un nouveau monde aussi qui est pour nous, les créateurs, c'est-à-dire le livre numérique. Et donc de raconter aussi cette histoire-là sous ce format-là. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un livre numérique, parce que moi, ce n'est pas un fantasme de faire du livre numérique. Par exemple, Notre-Dame de Paris, aucun intérêt de le faire en livre numérique. Au contraire. Mais celui-là, ça s'y prêtait bien parce que c'était un nouveau monde et donc on allait pouvoir avoir une interaction, faire un côté un peu documentaire comme scientifique, on allait pouvoir chercher, fouiner, trouver, aller derrière les trucs, bouger, enlever un truc, machin. Et on allait pouvoir aussi voir ces faits vivre. Il y a des petits films d'animation comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure, où on les voit bouger. Et voilà, donc pour moi la technique se justifie parfaitement. Ce qui ne veut pas dire que je vais faire plein de livres numériques, a priori non. Tu vois là, dans la vingtaine de livres que j'ai fait, je pense qu'il y en aurait 3 qui pourraient être des bons livres numériques. Et le livre numérique ne bouffera pas le livre papier. En tout cas, j'y verrai. Moi je continuerai à faire des livres papier.
Ouais, surtout vu le soin apporté.
Les objets, ça compte. Et puis, il y a un truc très bête avec le livre numérique. Et un truc au-delà de l'aspect touché, tactile, les ombres. Il y a deux choses qui diffèrent énormément. Et moi, le livre numérique, j'ai voulu faire un livre numérique. Et déjà, il y a un gros basculement. La majorité des choses qu'on trouve, surtout en application, c'est quasiment des jeux vidéo, des films d'animation. C'est plus des livres. C'est-à-dire, on est dans le jeu, on est dans une narration qui est éparse, qui est éparpillée, on peut aller bouger un petit bout, un petit truc. On n'est pas dans une vraie narration. Et ce qui fait un livre, c'est ça. Ça m'a fait vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'était un livre numérique. Parce qu'un livre numérique, au-delà de son aspect matériel, c'est on suit une histoire d'un auteur, on a une narration qui est guidée. Et on peut même la guider encore plus avec le livre numérique parce qu'on dispose du temps, de la musique, on dispose du mouvement, on dispose du son. Donc ça, c'est énorme pour raconter une histoire et pour vraiment être très précis. Mais on n'a pas des choses très importantes. On n'a pas l'échelle. Et ça compte énormément. Qu'un livre ait un certain format. On présente une image et un texte à un certain format. On n'a pas aussi la faculté d'un livre qu'on a d'imagination, puisqu'on est plus, on a tellement plus de choses qu'on peut rajouter, du coup, qu'on enlève à l'imaginaire. Et aussi, une narration dans un livre, on est plus actif finalement parce qu'on laisse parler l'imaginaire et aussi on peut le fermer et le reprendre quand on veut. Un livre numérique, on est encore plus guidé, on est un peu prisonnier du truc. Et il y a aussi évidemment l'aspect tactile, l'odeur, quand on a des découpes laser, il y a tout le jeu des ombres, des lumières qu'on ne retrouvera jamais, évidemment. Donc je pense vraiment que les deux choses ne vont pas se manger. Je pense qu'effectivement pour la presse, pour des choses comme ça où l'objet, le papier n'a très peu d'importance, peut-être qu'effectivement le numérique va le remplacer. Mais pour des livres à objet, des livres à fabrication, je pense pas.
Et vous parliez de l'ajout du son et de la musique. Comment vous avez travaillé
un travail d'équipe. Justement, la différence entre un livre numérique, c'est bien le problème, c'est qu'il y a toute une équipe et qu'il n'y a pas de marché. Donc ça coûte très cher à faire, mais il n'y a personne pour les acheter. Donc c'est un gros problème. Mais il y a eu un. Alors la personne qui a fait le son, c'est quelqu'un de ma famille qui avait fait déjà le son pour la mélodie des tuyaux. Alors comme il est très versatile, il est extrêmement doué, il a été capable de faire ça qui est tout nouveau parce que c'est pas une bande de son de film. Il ne faut pas que ça prenne trop l'impact sur la lecture, et en même temps c'est pas une musique pop, c'est pas un tube qu'on fait, c'est une musique qui doit accompagner sans manger, sans prendre trop d'importance. Donc voilà, il y a aussi tout l'aspect animation, où je l'ai fait avec Prima Linea, qui est un studio d'animation de films, et donc il y avait un animateur qui travaillait avec moi et un compositeur, et ils ont aussi fait l'interface entre moi et les programmateurs, qui est IGS, qui ont reprogrammé ensuite les choses. C'est-à-dire, à chaque fois, je dis, j'aimerais que ça bouge comme ça. Quand on passe le doigt, on voit ça, quand on truc, machin. Ben, ils l'ont intégré avec des lignes de code pour y arriver. Donc voilà, c'est un métier d'équipe, vraiment. Et c'est intéressant aussi en tant que créateur parce que, comme je vous dis, d'habitude, je bosse tout seul ou avec un Seb. Voilà. Là, ça a changé pas mal.
En parlant de contact, le salon du livre, c'est aussi l'occasion de faire beaucoup de dédicaces.
Oui.
Il y a beaucoup de queues en général dans les dédicaces. Ça vous apporte quoi
Ça dépend, les dédicaces, à chaque fois, chaque personne est unique, donc chaque fois c'est différent. Il y a des gens qui connaissent bien le travail, de plus en plus d'ailleurs, ça c'est très agréable, et qui en parlent, et là c'est génial, parce qu'on a un retour, ils nous disent ce qu'ils ont préféré, ils nous disent ce qu'ils n'ont pas aimé, pourquoi, comment, blabla, donc c'est très intéressant pour moi. Ça permet aussi de savoir si un livre est réussi ou pas, enfin, etc. Après, il y en a aussi, c'est moins sympa, il y a les mecs qui sont là pour avoir juste le dessin, ils s'en fichent, ils veulent pas parler, là c'est moins intéressant, on a l'impression d'être une machine, on fait notre dessin et basta. Donc voilà, mais c'est malheureusement, moi j'ai de plus en plus de gens qui sont là, qui ont vraiment aimé. Comme vous dites, la queue est parfois un peu longue, donc faut le vouloir quand même, son dessin. Donc ça en décourage d'autres, et voilà, donc c'est chouette. Après moi j'essaye d'aller le plus vite possible, mais c'est toujours difficile d'allier à la fois un minimum de qualité pour pas saloper le livre, quoi, pour pas complètement l'abîmer, et en même temps pas faire trop attendre les gens, arriver à discuter avec eux. Enfin c'est un sport, c'est presque un métier à part, la dédicace.
Et donc là, le Salon du Livre, il est consacré à la fois au cirque et au Mexique. Est-ce que c'est des univers qui vous parlent?
Ah, le cirque, j'adore. Ah, ouais, moi, j'ai fait plusieurs bouquins. J'ai même été directeur artistique d'un cirque. Ça s'appelait Le Rêve d'Igor. Je crois que ça tourne toujours. C'était en Belgique. Je crois qu'ils reprennent là bientôt. Où j'ai fait tout. On parlait de scéno, tout ça. J'ai travaillé un petit peu la scéno, les costumes, les affiches, les programmes, tout ça. Alors, c'était génial. Parce que moi, j'ai toujours adoré les cirques. En fait, j'ai toujours la Notre-Dame ou les Pots ou tout ça. C'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire ça parle de la différence. Et pour moi, l'illustration la plus parfaite, c'est les freaks, justement, ouais. Des foires. Et je me sens super proche de ces gens-là, de ces univers-là. Je me suis toujours senti un peu comme ça, un peu pas rentrer complètement dans la case. Pas... Et donc, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et c'est un univers visuel qui me touche énormément. Je fais un bouquin aussi autour du cirque qui s'appelait La Mélodie des tuyaux. Et qui était un livre comme ça qui parlait de différence, puis qui parlait de trouver sa place. Trouver sa voix. Et le gamin, il allait trouver sa voix, il allait pas finir à l'usine, mais il allait chanter et découvrir ça. Donc voilà, c'est un univers que j'adore. Le Mexique, je connais beaucoup moins. Je suis jamais allé au Mexique. Bon, j'adore comme tout le monde, Frida Kahlo, Diego Rivera, tout ça, mais après ça, franchement, j'ai une certaine inculture.
Alors on parlait de freaks et je crois que c'est dans celui-là que vous êtes représenté avec plusieurs bras.
Oui, parce que c'est la deuxième fois que je l'avais fait pour Pou à la base. Bah oui, parce que je fais toujours plein de trucs à la fois, toujours sur 4-5 projets à la fois. Et les gens ils me disent « Mais comment tu fais pour faire tout ça et tout ?» Et je dis « Voilà, j'ai plusieurs bras, je les sors la nuit, c'est tout. »
Merci beaucoup.
Eh bien merci.